Nous avons eu l'occasion hier soir de partager sur le thème de la destinée. Nous croyons que Dieu a une destinée pour chacun de nous et que les œuvres qu'il a préparées d'avance, il ne les a pas préparées selon Éphésiens 2:10, simplement pour ceux qui ont appel d'apôtres, de prophètes, parce que Dieu ne fait point de favoritisme. Donc Dieu a placé un appel glorieux sur la vie de chacun de nous. Amen. Et comme je le disais, ce qui est important, ce n'est pas de tenir un micro, ce n'est pas de tenir une guitare, ce n'est pas tant le titre que nous avons, mais c'est la fidélité que nous manifestons dans ce qui nous a été confié. Alors si vous êtes appelé à tenir une place dans l'ombre, bien merci Seigneur pour l'ombre. Et si vous êtes appelé à être sous les projecteurs, merci Seigneur pour les projecteurs. Mais ce n'est pas à rechercher l'ombre ou les projecteurs. Ce qui est à rechercher, c'est de rentrer dans le plan de Dieu. C'est quand tu es en train de faire les choses que Dieu veut que tu fasses au bon moment et au bon endroit que tu peux dire que tu réussis ta vie. Parce que réussir et rentrer dans sa destinée, c'est ma définition de réussir sa vie. Amen. Maintenant, le diable, vous avez remarqué, il a une destinée aussi pour chacun de nous. Et ça aussi, on l'a fait remarquer hier. Je crois que le diable, il est aussi méchant à Paris, dans la région parisienne, que dans la région toulonnaise, n'est-ce pas? Et son but, c'est de nous faire dérailler, puis de nous laisser hors du plan de Dieu, afin que son plan à lui de destruction s'accomplisse dans notre vie. Mais moi, je crois que Dieu, il n'en a pas fini avec les miracles, il n'en a certainement pas fini avec son peuple, et je crois qu'il n'a jamais été autant temps de croire en l'Église de Jésus-Christ. Alors, beaucoup de gens ont été blessés dans l'Église, beaucoup de gens ont vu des choses qui n'auraient pas dû eu lieu d'être dans l'Église, n'est-ce pas? Peut-être adultère, vol, et parfois chez les serviteurs de Dieu, chez les personnes de qui on l'attendait le moins. Mais je voudrais vous dire que toutes ces choses, toutes ces déceptions n'empêcheront pas Jésus-Christ d'avoir une Église glorieuse dans les temps dans lesquels nous sommes entrés. Parce que si quelqu'un croit toujours dans son Église, c'est bien lui. Parce que bibliquement, il a toujours prévu de venir la chercher. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas reçu de mail ou de fax où Jésus me disait, bien, j'ai changé mes projets, finalement, je ne viendrai pas vous chercher, je ne vous supporte plus. Dit le Seigneur, moi ça m'est arrivé de dire, je ne vous supporte plus. Mais Dieu, il ne le dit pas de nous, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, eh bien, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes allés trop loin pour nous décourager maintenant. N'est-ce pas? Alléluia. Certains, vous avez payé un prix trop grand pour dire maintenant, je laisse tomber. Parce que maintenant, c'est la dernière ligne droite et j'aurai l'occasion de parler de cela demain matin. C'est le temps où Dieu va manifester sa gloire sur son Église pour renverser la situation. Alors, je sais qu'il y a des tas de prophètes de malheur qui disent, aïe, 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 l'Église, elle va se retrouver dans un état dans les temps dans lesquels nous entrons. Oui, elle va être persécutée, mais elle va être glorieuse aussi. Ça va être la manifestation du pire et du meilleur. Alléluia. Vous avez vu, vous, tout ce que vous désiriez voir? Moi, non. Alors, j'ai 53 ans aujourd'hui, mais je... Pas aujourd'hui, mais actuellement. Et j'ai pas envie de perdre les années qui me restent. Alléluia. Et j'ai envie de voir la gloire de Dieu être manifestée, parce que lorsque je me suis converti, j'ai signé pour la gloire. Pour rien de moins. Amen. Alors, merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans le passé. J'ai vu des choses merveilleuses que le Seigneur a faites. Mais merci pour ce que tu vas faire. Non, on ne peut pas vivre avec le passé, on ne peut pas vivre avec le témoignage d'hier. Et nous avons des séminaires tous les mois dans une région de France différente. Et je l'ai dit publiquement plusieurs fois, je refuse de n'avoir à donner que des témoignages de ce que Dieu a fait dans ma vie il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ou chez un frère qui est en Afrique lors d'une convention particulière, ou en Asie, ou chez les grands revivalistes. Alors, merci Seigneur, on doit pouvoir mentionner ces témoignages pour stimuler la foi des auditeurs, mais il nous faut aussi l'onction fraîche, les témoignages frais. Alléluia. Et moi, je veux prêcher avec des témoignages de ce que Dieu y fait aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelques temps, lorsque nous avons démarré ces séminaires, j'étais dans un état où j'avais un affaissement des vertèbres et je ne pouvais plus, vous voyez, ça, j'arrivais pas à le faire. Ça, j'arrivais encore moins à le faire. J'arrivais plus à porter les valises quand on voyageait, c'est ma femme qui devait porter les valises. Alors les gens me regardaient en disant, qu'est-ce qu'il a, celui-là fait apporter les valises à sa femme. Et puis, lors d'un des premiers séminaires, j'avais prié le Seigneur, je m'attendais à voir sa gloire, mais ça semblait ne pas venir, humainement parlant. Et j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire parce que je n'ai pas réalisé que je le faisais en fait. J'ai sauté de l'estrade. Et en sautant de l'estrade, chose impossible à faire puisque je ne pouvais même pas sauter comme cela, même pas courir, m'amuser avec mon fils. J'ai été instantanément guéri par le Seigneur. Donc Dieu est toujours dans le business de la guérison divine. Alléluia. Donc peu importe le nombre de personnes ce soir, et nous sommes heureux. Moi j'aime les petites églises. Parce que si personne ou aucun serviteur de Dieu ne veut visiter les petites églises, je trouve que ce n'est pas juste. Si les gens vont simplement où il y a du nombre, là où il y a de l'argent, je trouve que ce n'est pas juste. Alléluia. On n'est pas là pour aller là où il y a du monde, on est là pour aller où Dieu nous demande d'aller. Et quand nous avons reçu l'invitation de nos amis, j'ai senti dans mon esprit que cet engagement était dans le plan de Dieu. Et c'est tout ce qui m'importe. Amen. Parce que c'est seulement ce qui est fait dans le plan de Dieu qui porte du fruit et qui va engendrer un miracle. Alors attendez-vous à un miracle. Amen. Peut-être un miracle que tu attends comme moi depuis des mois, il semble ne pas venir. Et il va arriver au moment où tu t'en aperçois même pas, tu vas monter dans la voiture. Et même tu seras frustré parce que tu diras aujourd'hui, j'ai pas jeûné, j'ai pas prié comme j'ai fait des fois. Et il se passe ce miracle-là. Mais parce que Dieu, il a rempli la coupe de bénédiction. Les coupes qui te concernent, dont il est question dans l'Apocalypse, qui sont au ciel, n'est-ce pas? Elles ne se remplissent pas de suite des prières des saints. Mais un jour, elles sont pleines et Dieu, il les verse sur ta vie. Mais il en est de même pour le méchant. Lorsqu'il commet l'iniquité, il commet le péché, il se dit, Dieu, il ne me reprend pas, donc je continue. Sa coupe, elle se remplit. Un jour, elle sera déversée sur lui aussi. Donc nous devons marcher dans la sainte crainte aussi. Amen. Lorsque j'étais jeune pasteur, j'étais très naïf. Je voyais des gens faire des choses dans mon dos par la suite que je n'avais jamais imaginé. Et ça, je parle dans l'église. Mais je crois que les temps sont venus où Dieu veut mettre de l'ordre. Alléluia. Et il y a un temps pour la rétribution de la bénédiction. Il y a un temps pour la rétribution aussi de nos excès, de nos mensonges et de nos tromperies. Alléluia. C'est pourquoi on doit apprendre à marcher dans la sainte crainte. Pas dans la peur de Dieu, mais dans la sainte crainte. Alors n'imaginez pas, parce que j'ai une queue de cheval, que je suis le genre de pasteur qui est pour la liberté de faire n'importe quoi. Mon principe, c'est plus vous prenez la liberté que Dieu vous a donnée, plus vous devez marcher correctement dans la vie de tous les jours. Pour que les gens ne vous accusent pas d'essayer d'avoir la liberté de pécher, la liberté de faire n'importe quoi. Parce que derrière les airs très sains de certaines personnes et de certains serviteurs de Dieu, croyez-moi, lorsque j'ai gratté, j'ai trouvé beaucoup de péchés. Alors ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. Ce que tu vis avec ta femme, ce que tu vis avec ton épouse, ce que tu vis avec tes enfants, ce que tu vis avec les autres membres de l'église, alléluia, c'est sur cela que Dieu nous jugera. Amen. Donc nous ne voulons plus jouer à l'église, nous avons besoin d'être à l'église. Il y a des milliers d'hommes qui vont se presser à la porte de vos églises. Il faut avoir quelque chose à leur donner, amen. Alléluia. Quelque chose de consistant. C'est juste l'introduction. Je voudrais parler ce soir de l'identité. Si Dieu a pour chacun de nous une destinée, pour pouvoir réussir sa destinée, il va falloir permettre au Saint-Esprit de nous affermir dans notre identité. Une chose importante à retrouver, à développer dans la vie chrétienne est son identité. D'ailleurs, combien d'enfants de Dieu ont une piètre opinion d'eux-mêmes et pensent également que Dieu a le même point de vue, ce qui est totalement faux. Vous voyez, quand on est insécure dans son identité, on va engendrer des gens insécures. Donc travailler sur son identité, ce n'est pas une démarche égoïste de notre part, c'est pour faire du bien aux autres aussi. Si celui qui t'amène au Seigneur, il fume comme un pompier, tu vas naturellement fumer comme un pompier. Mais s'il est affermi dans son identité, tu vas avoir un modèle pour t'affermir toi-même dans ton identité en Christ. Et dans la vie, il est important de comprendre qui Christ est en nous et qui nous sommes en lui aussi. Alléluia. Dieu n'aime pas les photocopies. L'unicité est un facteur d'onction. Ce qui est important, c'est que tu rentres dans la peau de qui Dieu a prévu que tu sois, de toute éternité. Et c'est là que tu porteras du fruit. Nous l'avons dit hier soir, c'est là que tu seras vraiment sous l'onction que Dieu a prévu pour toi. Cette onction qui ne marchera pour personne d'autre. Dieu te conduira à aller évangéliser à un endroit, tu diras, mais on a tous essayé, ça ne marche pas, mais toi tu iras, c'est pas parce que tu es plus malin, c'est pas parce que tu as plus de diplômes, et ça marchera pour toi, parce que tu es loin. Donc ce qui est important, c'est de faire les choses sous l'onction que Dieu a placée sur notre vie. Alléluia! Donc accepter Christ comme sauveur nous ouvre la porte de la guérison et aussi de la découverte de notre identité. Moi je crois qu'à la croix, Jésus est venu effacer nos péchés, mais pas seulement cela, et d'ailleurs en conséquence, nous guérir de nos maladies, amen, et nous redonner notre dignité, et nous guérir dans notre identité. Alors beaucoup d'enfants de Dieu, je me suis rendu compte au cours de mes voyages, ça a été mon cas dans le passé aussi, sont réconciliés avec Dieu, mais ils ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes. Et c'est le titre de mon message ce soir. Sois réconcilié avec toi, au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si nous voulons bien exercer le ministère de la réconciliation pour amener les gens à être réconciliés avec Christ, il est important que nous soyons nous aussi réconciliés avec Christ, mais réconciliés avec nous-mêmes. Donc si nous sommes appelés à nous réconcilier avec Dieu à travers Jésus, nous sommes aussi appelés à nous réconcilier avec nous-mêmes. Beaucoup se sont réconciliés avec Dieu et ne sont toujours pas réconciliés avec eux-mêmes. Alors il y a un commandement merveilleux dans l'Écriture qui comprend trois commandements, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Ton prochain, on insiste beaucoup sur ces deux commandements et combien c'est important. Mais il y a un troisième commandement qui se promène là aussi. Ton prochain comme toi-même. C'est difficile d'aimer les autres quand on ne sait pas s'aimer soi-même. Amen. Et je ne parle pas de l'amour égoïste de soi. Je parle de cet amour qui nous revient en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature du Seigneur, à qui le Seigneur a redonné leur dignité. Une des meilleures façons qu'utilise Satan pour prendre des droits dans une vie, c'est à travers les souffrances de l'enfance. Dans Proverbe 22:6, il nous est dit « Oriente le jeune homme sur la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Donc là, on a un principe qui est exposé. Ce verset nous fait comprendre que les habitudes que nous prenons, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises dans notre enfance, on va avoir du mal à les ôter après. Et nous savons que nous avons tous besoin de travailler encore, tout en étant nés de nouveau, sur les mauvaises habitudes qu'on a prises dans notre enfance. On se rend compte que les personnes âgées réagissent toujours en fonction des blessures de leur enfance. Combien de parents ont littéralement détruit l'identité de leurs enfants? Je vais même plus loin. Combien de parents spirituels ont détruit l'identité de leurs enfants spirituels? Vous savez, le plus grand mal qu'on puisse faire à une personne ou à nos enfants, qu'ils soient spirituels ou nos enfants selon la chair, c'est d'essayer de les faire devenir nous. Le plus grand mal que je puisse vous faire pendant ce week-end, c'est d'essayer de vous faire devenir moi. Si j'ai une école biblique et que je forme des serviteurs de Dieu, la dernière chose que je dois faire, c'est essayer de faire devenir les gens comme moi. Ils doivent devenir selon l'appel qui est placé sur leur vie, qui est différent de mon appel. Si j'aime ma femme, la dernière chose que je dois faire, c'est d'essayer de faire en sorte qu'elle dise amen à tout ce que je dis, parce que Dieu l'a placée à mes côtés pour qu'on trouve l'équilibre ensemble. Oui. Elle démarre au quart de tour. Certains n'ont permis à leurs enfants que d'essayer d'être de simples doubles d'eux-mêmes. Pourtant, les parents sont ceux que Dieu a placés auprès des enfants pour leur dire combien ils les aiment, pour les encourager. Alléluia. Et nous devons aussi nous encourager les uns aux les autres. Le péché détruit l'homme en détruisant son avenir, sa destinée, ses rêves, sa santé, sa personnalité, son identité. Mais Dieu veut nous guérir. Il veut guérir son peuple de ses souffrances intérieures, de son rejet, sans pour autant avoir à partir dans des programmes à n'en plus finir. Moi, je crois qu'avec Dieu, ça peut aller vite. Quand on apprend à reconnaître sa voix et à lui obéir. Alléluia. Pour cela, il veut nous faire comprendre qu'il est en nous, qu'il nous sommes en lui, et puis qu'il nous sommes tout court. Dieu nous a réconciliés avec Jésus-Christ. Il nous a réconciliés avec lui-même. Maintenant, il faut apprendre à être réconcilié avec les autres et avec nous-mêmes. Et pour cela, redécouvrir ce que les Grecs ils appelaient l'estime de soi. Pas seulement de Dieu et du prochain, mais aussi l'estime et l'amour de soi. Alors, il n'y a pas de guérison de notre cœur sans réconciliation avec notre identité. On est d'accord? Et je ne parle pas du culte de la personnalité. Mais Dieu a donné à chacun de nous un don merveilleux, c'est le don de la personnalité. Et peut-être que tu te dis, ce soir, ce pasteur, il n'a pas l'air d'un pasteur. C'est souvent ce que me disent les gens quand j'arrive quelque part. C'est bizarre, tiens, je ne pensais pas que vous étiez pasteur. Mais c'est un grand compliment que tu puisses me faire. Parce que je n'essaie pas d'être l'autre, je veux être moi-même. Alléluia. Et je t'encourage à être toi-même. Et je crois que Dieu, c'est un des thèmes de ce week-end, il aime la diversité. On l'a mentionné hier, vous avez vu la nature ? Elle est pleine de formes, de couleurs. Elle n'est pas en noir et blanc. Pleine de couleurs. Pleine de formes différentes. C'est Dieu qui a créé la nature. Alors ça serait illogique de débarquer dans une église et on ressemble tous à des mormons ou à des témoins de Jéhovah. Vous avez vu déjà les mormons, ils vont par deux, ils se ressemblent tous. Il y a dépersonnalisation de la personne. C'est une œuvre satanique qu'on retrouve dans certains pays ou qu'on a retrouvé à une époque en Chine, au temps de la révolution chinoise, où on ne pouvait même plus dissocier un homme d'une femme. Ils étaient tous habillés en bleu avec la même coupe de cheveux. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Parce que Dieu, il aime la diversité. Il aime le noir, il aime le blanc, il aime le rouge. Amen. Il aime le vert. Alors, mets des couleurs pour venir à l'église. Alléluia. À moins que tu aimes le noir. Tu as le droit aussi d'aimer le noir. Amen. C'est l'apôtre Paul qui dit « J'aimerais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. » On voudrait parfois que les gens soient comme nous, qu'ils fassent comme nous, mais c'est une grave erreur. Paul, il arrivait à vivre sans famille et sans épouse. Il avait un don, une grâce particulière, parce que la Bible nous enseigne que lorsque Dieu nous donne un don, il nous donne la grâce qui va avec. Alléluia. Mais si toi, tu n'es pas appelé à être célibataire, tu essaies de rester célibataire sans la grâce qui va avec, tu as de drôles d'années devant toi. Dieu n'est pas un tortionnaire. Lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, il va nous donner la grâce qui va avec. Ça sera facile pour nous, là où ça sera difficile pour l'autre, parce qu'il n'a pas reçu la grâce. Est-ce que vous me suivez? Alors merci Seigneur pour se lever à 4h du matin et prier jusqu'à 8h. Oui, c'est bien, mais est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Merci Seigneur pour un jeûne de 40 jours. Oui, moi je prie, je jeûne régulièrement. Je crois à cela. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de faire comme le revivaliste dont tu as lu la biographie la semaine passée? Pour lui c'était bon, toi ça va te mener au cimetière. Et c'est pourquoi on a tous dans nos églises des gens qui « Oh, je pars pour un jeûne de 40 jours », ils reviennent, ils sont à moitié fous, à moitié mystiques. Il y a un démon qui est rentré en eux, au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui les a rendus meilleurs. Amen. Il y a qu'à Toulon qu'il y a des gens comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit de prier, mais aussi de veiller. Ça ne suffit pas de prier. Lorsque Jésus, il est allé dans le désert, il allait chercher la face de son Père, mais la première personne qu'il a rencontrée, ce ne sont pas les anges, c'est le diable. Hello? Et souvent, quand tu fais une démarche spirituelle pour te rapprocher de Dieu, parfois, ça ne commence pas avec Dieu et avec les anges. Hello? Et si tu manques de discernement, tu auras eu de bonnes intentions, mais tu te feras avoir. Tu croiras revenir spirituel, et tu reviendras peut-être avec un esprit mystique, et tu créeras plus de problèmes à ton pasteur qu'autre chose au lieu de l'aider. Hello! Bienvenue sur Terre! C'est mon fils qui me dit, « Papa, oh, sur Terre, quand même, il y a tellement de choses désagréables, et ceci, cela, mais bienvenue sur Terre, chérie. » Alors, c'est pas Dieu qui règne sur la Terre. Un jour, ça sera le Seigneur. Alléluia. Mais nous, nous sommes les envahisseurs. Nous sommes supposés envahir ce royaume où Satan y règne pour faire avancer le royaume de Dieu, aider les gens à redécouvrir qu'ils sont en Christ pour qu'ils puissent engendrer des personnes et des chrétiens bien dans leur peau. Amen. Ah. Vous en connaissez beaucoup de chrétiens, vous, qui sont à l'aise financièrement, qui sont en pleine santé, qui n'ont pas de problèmes relationnels? Il y en a, mais il y en a très peu. N'est-ce pas? Moi, j'ai envie de voir la majorité des chrétiens que je rencontre être dans cette situation, pas la minorité. Donc, il y a un changement de mentalité qui doit avoir lieu au sein du peuple de Dieu, spécialement chez nous, les francophones, pour que Dieu puisse répandre sa gloire comme il a prévu de la répandre. Amen. Changement de mentalité. Il n'y a pas de guérison de notre cœur sans réconciliation avec notre identité. Pour cela, il y a un rejet à vaincre plus que le rejet des autres, éventuellement, c'est le rejet de soi. Beaucoup de gens qui n'ont pas été aimés arrivent à penser quelque part que c'est parce que leur personnalité repousse, ou encore qu'ils sont à la cause de tout. Ils ont souvent du mal à se considérer et à s'aimer, à aimer qui ils sont, et ils se rejettent. Parfois c'est inconscient. Et beaucoup de personnes ont un problème avec leur image, alors que l'image est un don de Dieu. Elle est indissociable du don même de la personnalité que le Seigneur veut restaurer chez chacun de nous. Vous savez pourquoi le diable attaque tant l'image chez l'homme? Pourquoi tant de gens sont mal dans leur peau dans ce monde et dans l'église? Il attaque l'image parce que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Quand il attaque l'image de l'homme, il attaque Dieu lui-même. Chacun de nous, nous sommes une facette de Dieu. Et Dieu a des millions et des millions de facettes, parce qu'il n'est pas un Dieu limité. Alléluia. Alors le diable, il a décidé d'attaquer l'image de l'homme. Pour que l'homme il soit à côté de la plaque dans sa destinée, pour qu'il soit dans la mauvaise onction, pour qu'il se marie avec la mauvaise personne, pour qu'il soit dans la mauvaise église, pour qu'il soit toujours là où il ne faut pas. À faire peut-être des œuvres bonnes, qui ne sont pas les œuvres préparées d'avance pour Dieu. Et la définition d'avancer dans sa destinée, ce n'est pas juste de faire des œuvres bonnes, ça c'est la définition de la religion. La religion, c'est faire des œuvres bonnes. La définition d'être dans sa destinée, c'est d'accomplir les œuvres que Dieu il a préparées d'avance, de toute éternité pour toi. Qu'aucun autre ne pourra accomplir. Parce que Dieu nous aime chacun d'une manière spéciale. On n'est pas sauvé en vrac, on est sauvé chacun en tant qu'individu. Quelqu'un le disait, même si Jésus avait dû venir mourir pour un seul d'entre nous, il serait venu quand même. Alléluia. Donc tu es précieux, tu es important pour Dieu, tu as de la valeur pour Dieu. Tu as été estimé au prix de la vie du Fils unique de Dieu. Tu crois que Dieu va t'abandonner maintenant? Souvent les gens prient, « Ah Seigneur, je ne suis rien. » Non, tu n'es pas rien. Tu as été évalué à un si grand prix que Dieu a donné la vie de son Fils unique pour toi. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Le salut est gratuit parce que justement il est trop cher. Vous savez, dans ce monde, parfois on dit d'une chose qu'elle est gratuite parce qu'elle n'a pas de valeur, donc on te la donne. Hein. Mais là, c'est parce qu'on ne peut pas payer. Ça a trop de valeur. C'est la définition du mot grâce. Ça signifie à la fois ce qui est gratuit, mais ça signifie à la fois le mot grâce, ce qui est le meilleur. Donc Dieu t'a donné gratuitement ce qu'il a de meilleur. Alors tu crois que tu peux prier, Seigneur, je ne suis rien? Ouh! Seigneur, merci de ce que je suis quelque chose. Merci de ce que je suis une créature merveilleuse. Disait David sous l'ancienne alliance, qui était une alliance bien inférieure à la nouvelle alliance. Ils n'étaient pas encore lavés dans le sang de Jésus. Et il dit, je te remercie de ce que je suis une créature merveilleuse. Alors demain matin, je veux te voir devant ton miroir. Enfin, je ne te verrai pas, mais Dieu te verra. Et dire, je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Vous savez, pour évoluer dans la vie, ça ne commence pas par essayer de changer. Ça serait comme essayer de gagner le salut par ses œuvres. Il faut d'abord s'accepter comme Dieu nous a acceptés. Et là, après, on peut évoluer. Amen. Le problème, ce n'est pas tes kilos en trop ou tes kilos en moins. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à t'accepter. Vous avez vu les top modèles, comme on les appelle, de magazines? Vous lisez leurs interviews, je fais de la dépression. Je ne trouve pas de sens à la vie. Tu crois que c'est les kilos en moins qui l'ont aidé à être bien dans sa peau? Tu dois d'abord t'accepter et t'aimer comme Dieu t'a aimé. Après, si tu veux faire un régime, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais un régime pour être accepté, ça va être très dur parce que tu le fais avec tes propres forces. Et tu le fais dans le mauvais esprit. Par contre, une fois que tu t'es accepté, que tu t'aimes tel que tu es, tu veux faire le régime, là, il t'aidera le Seigneur pour ton régime. Alléluia. Parce que là, tu seras dans le bon état d'esprit. Amen. Et tu sais, de toute façon, Dieu a prévu quelqu'un qui doit t'aimer comme tu es. Donc si tu fais trop de chirurgie esthétique, cette personne va te croiser dans la rue, elle ne te reconnaîtra pas. Il y a des gens qui sont programmés pour t'aimer tel que tu es. Alors, ce n'est que d'autres trouveront un peu trop imposant, lui, il le trouvera super. Il ne te veut pas avec un autre nez. Il faut comprendre comment Dieu y travaille. Il faut vraiment comprendre comment Dieu y travaille, sinon on va passer notre vie mal dans notre peau. Parce que les gens dans ce monde, et c'est une conséquence du péché, ils sont insatisfaits de tout. Ceux qui ont les cheveux frisés, ils voudraient les avoir raides. Ceux qui les ont raides, ils veulent les avoir frisés. Ceux qui sont bruns, ils veulent être blancs. Ceux qui sont blancs, ils voudraient être bruns. Hello! Le nombre de fois, les gens vous disent « Ah, j'aimerais avoir comme vous, mais t'es pas bien compté ?» Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur soi, amen, mais on doit d'abord s'accepter tel qu'on est. Alléluia. Après, si tu veux te teindre en bleu les cheveux, ce n'est pas un problème. Gloire à Dieu. Mais il faut d'abord t'être accepté sans le bleu. Merci. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, tu suis toujours? Savez-vous pourquoi tant de gens se marient mal? parce qu'ils manquent tellement d'estime d'eux-mêmes qu'ils sont prêts à se marier avec la première personne qui les regarde et qui est gentille ou qui leur dira un truc bien. En d'autres termes, ils sont à la merci des autres. Moi, je voudrais vous dire que Jésus, il est venu nous racheter, pas pour qu'on soit à la merci des autres. Il est venu nous racheter pour qu'on domine sur cette terre. Déjà, quand il a placé Adam et Ève, c'était pas pour qu'ils soient à la merci de la création qui les entourait, mais c'était pour qu'ils dominent. Alléluia. Et d'ailleurs, les couples ou les futurs couples, vous êtes sur cette terre pour dominer. Amen. Et d'ailleurs, quand on est avec son conjoint dans cet état d'esprit, nous sommes sur cette terre pour dominer, vous savez, on a autre chose à faire que passer sa journée à regarder les défauts de l'autre. Donc ça aide vraiment pour la sanctification et ça aide vraiment pour vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que nos regards à tous les deux, ils sont là sur cet objectif. On est ensemble. C'est vrai, c'est bien de créer une gentille petite famille. Dieu, c'est ce qu'il veut. Mais le but premier de Dieu, avant même qu'on crée une gentille petite famille, c'est qu'on domine. Et si on a ensemble ce regard sur dominer, on a le regard tellement haut qu'il est le gros de notre attention, il est attiré par cet objectif, dominer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne reste plus beaucoup de temps pour voir tous ses défauts et pour voir les miens. Est-ce que vous me suivez ? Vous voyez, souvent on essaye de s'améliorer, mais on s'y prend de la mauvaise façon, on s'y prend à l'envers. Alors régulièrement, on rencontre des enfants de Dieu qui sont là, qu'est-ce que tu fais ? Je me sanctifie. Oh, ça a l'air dur, hein ? Relax. Si c'est si dur la vie chrétienne, alors... Le diable vient souvent souffler à nos oreilles, c'est dur la vie chrétienne. Il faut lui dire, c'est encore plus dur de ne pas être chrétien. Il faut lui rappeler, alléluia. Il faut lui rappeler ce qu'on oublie facilement quand on ne connaissait pas le Seigneur. Alléluia. Dans plusieurs facteurs font que l'œuvre de reconstruction de notre identité par le Saint-Esprit va ou ne va pas pouvoir se faire. Le premier facteur, c'est l'ignorance. L'ignorance peut nous empêcher de comprendre et de savoir comment Dieu nous voit. Parce que la Bible nous dit que l'accusateur nous accuse nuit et jour. Donc il est normal de se sentir accusé, parce qu'il y a quelqu'un dans le monde spirituel qui nous accuse nuit et jour. Vous avez remarqué, on se sent accusé. On est là cet après-midi, et puis si on ne fait pas attention, on va se sentir accusé. J'ai pas assez ceci, j'ai pas assez prié, j'ai pas assez cela. Tu vas au supermarché, tu marches tout simplement dans la rue, tu te sens accusé. Tu t'achètes un pantalon neuf, tu reviens chez toi, tu te sens accusé. Et vous avez affaire au même diable que moi, c'est l'accusateur. Et parfois, son meilleur piège, c'est de faire croire que cette voix, c'est la voix de Dieu, qui nous accuse, qui n'est jamais satisfait avec nous. Alors il est important, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, Jean 8, 32. Il est important de comprendre, de savoir comment Dieu nous voit. Et Dieu, il nous voit à travers Jésus-Christ. Amen. Donc quand il nous regarde, il ne dit pas « Regarde-le, ce pauvre type ». Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu n'a jamais recréé en Christ de pauvre type. Il nous a recréé en Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre position aujourd'hui en Jésus, écoutez bien, est même supérieure à la position qu'avait Adam. Dieu a créé Adam. Et lorsque l'esprit d'Adam est mort, l'esprit d'Adam n'a pas été recréé. Il a fallu que Jésus revienne et nous sommes recréés, nous est dit en Jésus-Christ. Et la position de Jésus, c'est une position supérieure à celle d'Adam. Donc malgré cette chute, malgré cette catastrophe mondiale, universelle, la chute de l'homme, Dieu dans son omniscience, il avait déjà prévu un plan meilleur pour qu'on sorte de là avec plus au lieu de sortir avec moins. Alléluia. Alors parfois on ne comprend pas certaines choses dans la vie et c'est pas toujours le moment de comprendre les pourquoi. Pourquoi le diable a réussi à frapper, pourquoi il a réussi à passer par là. Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu il peut nous faire rebondir à partir de n'importe quel échec, à partir de n'importe quelle déception. Il peut nous faire rebondir plus haut que là où on se trouvait avant d'être passé par cette épreuve. Amen. Vous savez, parfois on se pose la question, mais pourtant c'était le plan de Dieu, j'avais échafaudé tous ces projets, ils se sont cassés la figure, alors on ne comprend plus. Là, il y a des pourquoi, c'est vrai. Mais je voudrais vous dire qu'il y a des plans de Dieu dans l'Écriture qui se cassent la figure. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Les gens qui travaillent avec nous, parfois, qui font de mauvais choix, qui nous entraînent, même si on n'a pas voulu, une part de notre destinée à cause de leurs mauvais choix. Il y a beaucoup de facteurs, alléluia, qui rentrent en ligne de compte. Il y a une méga histoire d'échecs de plans de Dieu qui est tellement grande qu'on pourrait passer à côté, mais c'est le plan que Dieu a mis en place pour créer l'homme et la femme et les placer dans le jardin d'Éden. Vous croyez que Dieu était dans le plan de Dieu lorsqu'il a placé Adam et Ève sur la terre? Hein, n'est-ce pas? C'est la moindre des choses. Et pourtant, le plan de Dieu, il a foiré. Donc, nous pouvons avoir des plans de Dieu, des appels que Dieu a placés sur notre vie, qui foirent, parce que certains facteurs rentrent en ligne de compte, et nous ne devons pas nous décourager comme s'il ne restait plus de plan de secours, ou si le plan de secours était automatiquement inférieur au plan original. Mais non, la Bible nous dit qu'avant même la fondation du monde, Dieu, qui connaît toutes choses à l'avance, il avait prévu l'agneau immolé. Donc avant même ton échec, avant même ton divorce, avant même la perte de ton enfant, avant même tout ce qui t'a meurtri, l'église qui a explosé en mille morceaux, Dieu, il a prévu une solution pour que tu rebondisses encore plus loin et encore plus haut. Et si tu perds de vue cette réalité, eh bien, le diable, il a réussi à te voiler ton avenir et ton espérance. Amen. Levons les mains quelques instants, je vais continuer. On veut juste bénir le Seigneur. On veut se rappeler que il ne nous a pas abandonnés. Enfin, on a l'impression qu'il y a une telle pagaille au sein du corps de Christ. Comment on va s'en sortir pour entrer dans la gloire? Il ne nous a pas abandonnés. Il a déjà prévu comment on va rebondir tous. Alléluia. On va pouvoir tirer enseignement de toutes les choses qui nous ont meurtris, blessés dans notre enfance ou dans notre enfance spirituelle ou dans notre présent aujourd'hui. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que tu renouvelles ta vision pour te propulser dans ton futur. Le passé, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux plus rien faire maintenant. Ok, accepte-le. Alléluia. Et regarde la solution de Dieu pour que tu rebondisses non pas dans un plan inférieur, mais dans un plan supérieur. Il y a un merveilleux verset qui dit, je crois que c'est dans Jacques, avec l'épreuve, le mot épreuve, tentation, c'est le même dans le grec, il préparera le moyen d'en sortir. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai réfléchi un jour à ce verset, ça signifie que dans toute épreuve, même si c'est le diable qui l'a causée, Dieu il a prévu une graine dans cette épreuve, que si tu sais la trouver, elle va te permettre de rebondir à partir de l'épreuve même. C'est pourquoi souvent, la seule solution que nous trouvons lorsque nous sommes déçus et blessés, c'est de fuir ce qui nous a fait mal. Or, ce n'est pas comme ça qu'on va trouver la solution pour se propulser à partir de cette épreuve. Il faut affronter. La Bible dit « résister à Satan ». Il fuira loin de vous. Amen. Ça peut faire mal, mais il faut prendre le temps d'affronter les choses en face. Parce que si tu prends le temps d'affronter les choses en face, même si elles te font mal, tu sais ce qui va se passer? Au milieu de tout cela, tu vas trouver la graine que Dieu il a prévue de toute éternité, même dans ton épreuve, pour te permettre de rebondir plus loin. Par contre, si tu fuis, tu ne vas pas la trouver, la graine. Hello. Bienvenue dans l'église. Je crois que j'ai ouvert cette parenthèse, elle n'était pas prévue dans ce message, mais parce que plusieurs personnes en ont besoin ici. Amen. Je crois que cette parenthèse est une parole de connaissance pour plusieurs d'entre vous, je ne vous connais pas. Et saisissez-la, c'est une pépite, repartez avec la pépite. Et continuez à parler les choses de Dieu. Cessez de parler les choses dévaluantes, parce que nous avons parlé de proclamation tout à l'heure. Il y a un pouvoir dans notre bouche. Arrêtez de dire « je suis moche, j'ai pas de personnalité ». Peut-être ta mère, elle t'a dit « qui peut vouloir de toi? Qui voudra se marier avec toi ?» Peut-être tes parents t'ont dit « tu es bête ». Vous savez, on peut maudire les gens qu'on aime le plus parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce que ça signifie que maudire et que bénir. Maudire, ça signifie littéralement prononcer des paroles négatives dans la vie d'une personne. Et si cette personne, comme les enfants, est assez influençable pour les recevoir, il va lui arriver selon ses paroles qui ont été prononcées. Non pas parce que Dieu voulait que ça lui arrive, mais parce qu'elle a reçu ses paroles négatives comme une flèche. Vous savez, maudire, ça commence avant de prendre une poupée, de planter des aiguilles dedans. Ça commence bien avant. On peut maudire ses enfants. On peut maudire les gens qu'on aime le plus parce qu'on s'est peut-être converti, mais on n'a pas appris à changer son langage. Et bénir, ça signifie... En l'autre sens, prononcer des paroles positives dans la vie d'une personne. Et si cette personne les reçoit avec la foi, je prononce des paroles positives cet après-midi, amen. si cette personne les reçoit avec la foi, elles vont s'accomplir dans la vie de cette personne. Donc quand on prêche, quand on chante, qu'est-ce qu'on fait ? On vous bénit cet après-midi. Moi, je me bénis, alléluia. Je pars toujours du principe que de toute façon, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Et si personne ne reçoit mon message, moi, je le reçois. Ok, je fais un appel tout à l'heure, je m'avance, je prie pour moi. Ok ? Parce que la parole de Dieu, je pars du principe qu'elle a une puissance. Et il ne faut pas la laisser retourner sans qu'elle ait produit son effet, parce que ce n'est pas dans le plan du Père qu'elle retourne à lui sans produire son effet. Alléluia. Donc il y a de la bénédiction dans l'air cet après-midi. Tu diras peut-être, oh, j'aurais voulu qu'il y ait tel prédicateur très célèbre ou autre. Peu importe, il y a la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut cet après-midi. Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole. Ah, il y a plus qu'une parole cet après-midi. Amen. Nombre 14, 28, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. La langue a un pouvoir. Il ne suffit pas de vouloir être réconcilié avec Dieu et avec son identité. Il faut travailler à cette réconciliation en changeant sa manière de voir les choses, sa manière de comprendre Dieu et sa manière de parler. Et si les gens parlent mal sur vous, ne parlez pas mal sur eux. Bénissez-les. Amen. Alléluia. Il y a une foule d'enseignements, parfois aussi, qui ont été apportés dans les milieux catholiques et, ou évangéliques, qui, sous prétexte d'humilité, de ne pas voler la gloire de Dieu, d'élever le Seigneur et non l'homme, ont contribué au travail entrepris par Satan lui-même, à savoir détruire l'identité des chrétiens. Et bien sûr, il y a l'autre extrême aussi. Il y a les gens, après, on ne peut plus les appeler par leur prénom si on n'a pas prononcé le mot... apôtre, bishop, etc. On ne peut plus les appeler normalement. Il y a des gens, je les appelais par leur nom normal à une époque. Maintenant, je ne peux plus. Je trouve ça un peu bizarre. Ça me rappelle Jésus qui disait, ils aiment qu'on leur donne des titres, qu'on les appelle maîtres et avoir les premiers sièges dans les synagogues. Alors je crois, et je vois cette parenthèse pour que vous ne vous mépreniez pas vis-à-vis de ce que je suis en train de dire, je crois que Dieu il veut qu'on reste dans l'humilité. Mais l'humilité, ce n'est pas la destruction de notre identité. Donc il y a un équilibre à trouver en toutes choses. De toute façon, le diable nous attend toujours aux deux extrêmes. Je le dis, si le diable, il ne peut pas te freiner, il va te pousser. Il ne peut pas t'arrêter par devant. Tu as réussi à vaincre, alléluia, tu as livré un combat spirituel, il va te pousser. Et c'est pourquoi nous voyons des tas de chrétiens bien intentionnés, parfois d'hommes de Dieu, qui remettent en évidence, utilisée par le Saint-Esprit, une vérité de l'Écriture qui était inconnue, la délivrance, des choses très importantes à avoir au sein du corps de Christ. Et au bout de quelques temps, ils ne parlent plus que de ça, on ne voit plus que des démons partout, il n'y a plus que ça qui compte. Et ce qui avait été donné au peuple pour lui faire du bien est devenu maintenant un sujet de destruction pour ce peuple. Hello ? Vous savez, moi je crois à la folie de Dieu, je crois aux vins nouveaux, je crois aux gens qui sont propulsés dans les chaises, selon les réunions, qui éclatent de rire. Ça ne me choque pas du tout, mais on n'est pas supposé faire ça à chaque réunion. Après, si tu n'as pas la personne qui tombe, ça y est, tu as raté la réunion. Non ! Tu as raté la réunion si les gens ne reçoivent pas la parole. Mais moi, je ne la rate jamais puisque moi, je la reçois. Est-ce que vous comprenez ? Il y a un équilibre à trouver. Ce n'est pas qu'il faut tout rejeter parce que, par peur des déséquilibres, beaucoup empêchent tout ce qu'on peut appeler les nouveautés que Dieu veut mettre au goût du jour dans son Église. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils rentrent dans ces nouveautés, ça devient leur nouveau cheval de bataille. Il n'y a plus que ça qui compte. Or, c'est comme ton alimentation. Il va falloir des fruits, il va falloir des légumes, il va falloir du pain. Tu ne manges pas qu'avec du pain, qu'avec des légumes. Et surtout pas qu'avec des bonbons. Il y a des gens, ils ont goûté aux bonbons. À toutes les réunions, il faut les bonbons, non ? Parfois, tu sens la présence de Dieu. Waouh, elle est palpable. La salle en est remplie. D'autres fois, tu sens rien du tout. Mais Dieu est là quand même. Et c'est peut-être ce jour-là que tu vas recevoir ton miracle. Amen. Vous savez, il y a les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostats dans la vie. Le chrétien thermomètre, il rentre, oh, il n'y a pas l'onction. Eh bien, pourquoi tu ne la fais pas venir avec les autres ? Le chrétien thermostat, il la fait venir. Ah, oh, pasteur, il n'y a pas l'onction aujourd'hui. Mais qui t'a dit que c'est lui le seul responsable pour faire venir l'onction ? Dieu demeure au milieu des louanges de son peuple, pas des louanges du pasteur. Alors, tu es chrétien thermomètre ou thermostat. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu es chrétien thermomètre ou chrétien thermostat? Il faut savoir. Bah, si tu es chrétien thermomètre, pour l'instant, tu peux rien pour tes pasteurs. Je tiens à être très franc avec toi. Tu peux pas les aider. Eux, ils peuvent t'aider, mais toi, tu peux pas les aider. Mais le chrétien thermostat, il va venir, va dire, pasteur, aujourd'hui, c'est vrai, toutes les conditions ne sont pas réunies. Il y a la sono qui craque, on a un son pourri, les chanteurs sont pas venus. Mais ça va pas empêcher le Seigneur de se manifester parce qu'on est là. Alléluia. Et celui qui a des membres comme ça, il est béni. Alléluia. On va mettre une annonce, on cherche des membres comme ça. On parle parfois d'armée sans visage. Oh, l'armée de Dieu est une armée où chacun a bel et bien un visage. Un salut acquis personnellement pour nous par Christ, un nom précis. Il est question dans Apocalypse qu'à celui qui vaincra, Apocalypse 2:17, Dieu donnera de la manne cachée à un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne d'autre que toi ne connaîtra. Alors comment voulez-vous que les gens apprennent à s'aimer eux-mêmes lorsqu'on les bombarde de déclarations et d'enseignements qui leur disent combien ils sont petits, pécheurs, misérables, incapables, qu'il ne faut pas s'occuper de soi. Dernièrement, dans nos séminaires, on a eu des personnes qui sont venues et qui étaient blessées, sortaient d'une fédération. Ou alors, c'était interdit pour les femmes de couper leurs cheveux, il fallait mettre le voile sur la tête, surtout pas se maquiller, surtout pas... Alors l'homme, à la rigueur, il avait l'air assez moderne, mais la femme, on aurait dit sa grand-mère. Les gens, ils s'arrangent un peu, vous savez. Et puis, ils se sont rendus compte, après des années de service, ils ont donné toute leur énergie, tout leur argent, ils se sont rendus compte que les principaux leaders, ils couchaient avec un peu toutes les femmes qu'ils trouvaient dans l'église. Alors, vous voyez, cet aspect bien religieux, c'est bien beau. Mais il faut savoir ce qu'il y a derrière. Amen. Alors souvent, c'est une compensation. On veut empêcher les gens d'exister, de vivre sous prétexte de sainteté. Mais ça, c'est démoniaque. C'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il aime la diversité. Il veut que tu sois bien dans ta peau. Alléluia. Et que tu marches dans la sainteté. Mais la vraie sainteté. Alors ne vous laissez pas impressionner par les gens. Ce n'est pas celui qui a parlé le dernier qui doit vous convaincre. Et d'ailleurs, tout ce que vous entendez pendant ce séminaire, acceptez-le seulement si ça fait écho dans votre cœur. Amen. Si ça ne fait pas écho, je ne suis là pour manipuler personne. Je n'ai pas le droit de vous l'imposer de force. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Amen. Et vous savez, une chose n'est pas sainte, elle n'est pas positive et ne vient pas de Dieu obligatoirement parce qu'il y a des versets bibliques, hein. Vous avez des tas de sectes, on en a cité tout à l'heure, qui sont bâtis sur des versets bibliques sortis de contexte. D'ailleurs, lorsque Satan lui-même est venu trouver Jésus lui-même pour le tenter, dites-moi, Satan, il n'est pas venu avec le manuel du parfait petit sataniste. Hein? Il avait trouvé mieux. Non, mais mettez-vous à sa place. Il va livrer le combat de toute sa vie. Donc Satan, il va dans sa bibliothèque, il regarde tous les bouquins. Et le seul qui prend, c'est la Bible. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il y a une arme encore plus redoutable que ces bouquins d'occultisme. Ce sont des versets bibliques sortis de contexte, où on fait dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a jamais voulu dire. Là, moi, je rencontre des centaines de personnes dans mes voyages qui sont asservies par les bons conseils bibliques d'autres personnes. Et ils sont malheureux depuis des années. Ils sont malheureux. Or, la Bible dit, si tu mets en pratique cette parole, tu seras heureux, toi et ta famille. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dites-vous que si le diable l'a essayé avec Jésus, vous croyez qu'il ne va pas essayer avec nous? Vous croyez qu'il se gêne avec nous? S'il a essayé, permettez-moi l'expression, il faut être quand même gonflé pour venir trouver le verbe fait chair avec des versets bibliques. Il n'a vraiment pas trouvé mieux comme arme. Hello? Alors ne soyez pas... naïvement sécurisé parce que vous avez une Bible, ça peut être la lettre qui tue et tu tues tout le monde dans l'église avec. Il vaut mieux que tu n'en aies pas. Hein. Oh là, il vaut mieux que tu n'en aies pas. D'ailleurs, la première église, honnêtement, ils n'avaient pas de Bible. Ils allaient à la synagogue pour entendre la parole de Dieu. Après, quelques années après, il y avait quelques parchemins par-ci par-là. Au départ, le Nouveau Testament n'était même pas écrit. et pourtant ils ont fait un réveil fantastique. Et nous, on a tous plusieurs versions à la maison, et on a des ennuis à n'en plus finir. Non, c'est certainement que c'est pas toujours la parole qui a franchi. Hello! Hey! On parle de miracles, on parle de choses fantastiques que Dieu fait. Quand c'est la dernière fois que vous avez ressuscité un mort, vous? Aucun de vos amis a ressuscité un mort. Hein? Vous savez, on s'accroche au miracle qui a eu lieu il y a 10 ans. Ouais, alors on le ramène tout le temps. Non, il nous faut le miracle du jour. Il nous faut une église vivante avec une parole vivante. Parce que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Je vais terminer. Tant de gens ont vécu dans l'ombre des autres, écrasés, conditionnés par d'autres. C'est un ministère de pasteur, c'est pour libérer les gens, c'est pas pour les asservir. C'est pour que tu sois bien dans ta peau. Et si même être bien dans ta peau et dans ton appel, c'est pas être avec moi, eh bien sois libéré au nom de Jésus. Amen. Sinon on est des sectes. Où on met en application les mêmes principes que dans les sectes. Hello. Là où est la liberté, là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la... Alors pas la liberté de faire n'importe quoi, on est d'accord? Mais il y a des endroits, tout est interdit sauf de respirer. Ça a besoin de souffle nouveau. Tant de gens ont vécu dans l'ombre des autres, écrasés par les autres. Redécouvrez qui vous êtes et non ce que d'autres personnes pensent que vous devriez être. Qu'avez-vous envie de faire? Qui avez-vous envie d'être? Ce sont des questions à se poser. Qui suis-je? Qui suis-je supposé être dans le plan de Dieu? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Et qu'est-ce que vous détestez vraiment? Qu'est-ce que vous avez plus envie qu'on vous fasse vivre? Est-ce que vous savez ce que vous voulez vivre? Et est-ce que vous savez ce que vous voulez plus vivre aussi? Et est-ce que vous savez ce qu'on vous fera plus vivre aussi? Est-ce que vous subissez votre vie chrétienne ou c'est une grande aventure? Exemple, est-ce que vous aimez les pantalons, les chemises que vous mettez? Ou vous les subissez? Vous les mettez parce que vous les avez trouvés pas trop chers? Alors c'est bien pendant un temps si on n'a pas d'argent. Et après il faut pouvoir passer à autre chose, faire ses propres choix. Cette robe que ton mari t'a offerte, peut-être qu'elle est super, qu'elle a coûté cher, mais tu n'as jamais osé lui dire qu'elle ne te plaît pas. Eh bien il va falloir maintenant lui dire, chérie je t'aime, tout mon cœur, mais la robe je ne l'aime pas. Libère-toi. Et si vous aimez votre conjoint, libérez-le. Alléluia. C'est dans un couple, il y a des choses qu'on doit faire ensemble, on a des points communs, et puis il y a d'autres choses, c'est pas notre truc. Ma femme, elle aime beaucoup marcher. Quand on est à l'île de la Réunion, quoi, elle veut marcher, elle est sur le volcan, moi je veux la suivre en hélicoptère. Voilà, ben, un jour elle m'a libéré, je l'ai libéré pour marcher, je te paye un week-end pour aller marcher, tout organisé, alléluia. Et moi, bon, je fais le tour du pâté, c'est bon après. Donc elle m'a libéré, je l'ai libéré. Et puis il y a les autres choses qu'on fait ensemble, on chante ensemble, on prêche la parole de Dieu, on voyage, merci Seigneur. Mais l'amour, c'est pas tout faire ensemble, c'est pas asservir l'autre, c'est libérer l'autre, alléluia. Ouh. Quand vous rentrez à la maison, commencez, mettez-moi l'expression, de virer tout ce qui ne vous reflète pas. La meilleure façon pour que Dieu vous fasse parvenir ce qui vous reflète. Parfois, on attend que Dieu nous donne autre chose, mais lui, il attend qu'on fasse le pas pour se débarrasser, pour nous donner le reste. Alléluia. Afin d'être de plus en plus vous-même, l'être unique recréé en Jésus-Christ. Vous verrez que l'onction, après, augmente sur votre vie pour toucher les autres et pour les influencer.